Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Un très joyeux sabbat à vous tous. Il y a une dizaine d'années, un article a paru dans le journal Times de Londres. Et l'article concernait les 20 questions les plus difficiles pour les parents posées par les enfants. Les questions, les parents avaient vraiment du mal à trouver une réponse satisfaisante. Il s'agissait d'enfants entre les âges de 8 et 12 ans. Et les questions, je les ai trouvées intéressantes et aussi révélatrices, et je pense qu'elles forment une bonne introduction à mon sermon aujourd'hui. Voici donc les 20 questions. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu a une barbe? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Si Dieu nous a créés, qui a créé Dieu? Dieu ressemble à quoi? Pourquoi est-ce que le monde existe? Qui a créé Dieu? Peu de répétition. Pourquoi les gens sont si méchants les uns aux autres? Eh oui. Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que je suis vraiment ici ou est-ce que c'est un songe? Si Dieu est partout, pourquoi faut-il aller à l'église pour le voir? Pourquoi ne peut-on pas téléphoner à Dieu? Pourquoi est-ce que la fête de Pâques change de date chaque année? Pourquoi est-ce que Dieu est partout? Pourquoi est-ce qu'il y a un monde? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres dans le monde et pourquoi est-ce que la guerre existe? Pourquoi je crois en un Dieu quand mes amis hindous adorent beaucoup de dieux et est-ce que mon Dieu est le même que pour les juifs? Est-ce que tu sais pourquoi Jésus pleura? Qui a créé l'univers? Et le 20e, la question difficile à trouver une réponse, est-ce que Dieu a une maman? Évidemment, avoir une maman, c'est une chose très importante pour les enfants. Si vous êtes parent, vous avez entendu sans doute des questions similaires, semblables. Les enfants veulent comprendre, ils veulent savoir. Et parfois, assez souvent, les questions les plus difficiles concernent l'existence et Dieu et comment comprendre tout cela. Pourquoi est-ce que je suis là? Quel est le but de mon existence? Est-ce que Dieu existe et comment est-ce qu'on peut savoir? Les enfants posent beaucoup de questions comme cela. Mais nous devons l'avouer, nous aussi, nous nous posons assez souvent des questions à propos de Dieu. Parfois, dans notre cheminement chrétien, nous posons des questions à propos de Dieu et pourquoi il fait certaines choses ou pourquoi il permet certaines choses dans nos vies. Nous avons des questions et nous savons, finalement, nous arrivons à la conclusion qu'on ne va pas pouvoir tout comprendre dans cette vie. Mais les questions restent. Cependant, notre Créateur, aimant et miséricordieux, nous révèle beaucoup de choses dans la Bible à propos de lui. Et ce sont des vérités qui sont très encourageantes pour nous, qui nous rassurent, et ce sont des vérités que nous n'avons jamais oubliées. Cela fait une énorme différence dans nos vies. Il est important aussi de revoir de temps en temps les choses que nous comprenons, que nous savons, mais il faut renouveler notre compréhension de temps en temps. Et aujourd'hui, je vous propose de le faire à propos de Dieu. Je vais commencer une série de sermons aujourd'hui qui va, cette série, approfondir les croyances fondamentales de l'Église de Dieu, Association mondiale. Il est important d'avoir un bon fondement dans les croyances fondamentales, les doctrines fondamentales de la Bible, parce que c'est de là que nous tirons nos croyances. C'est la Bible, le fondement de notre compréhension. C'est là, nous le savons, nous pouvons trouver la vérité. Alors, nous allons commencer cette série aujourd'hui par la première de nos croyances fondamentales, de l'Église de Dieu, Association mondiale, et cette première s'intitule « La divinité ». La divinité. Et c'est là où tout commence, littéralement. Voici notre énoncé ou doctrine fondamentale, l'énoncé de croyance. Je lis. Dieu le Père est un esprit existant éternellement, un être parfait et personnel qui manifeste amour suprême, intelligence, savoir, justice, pouvoir et autorité. C'est à travers la parole, qui est devenue Jésus-Christ, qu'il a créé toutes choses. Le Père est la source de vie et par sa puissance le pourvoyeur de l'univers. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui existe éternellement. Il est venu sur terre pour accomplir la volonté du Père. Il est le Messie, le Christ, et le Fils divin du Dieu vivant. Il est né homme, de chair, de la Vierge Marie. Dieu est une famille éternelle, actuellement composée du Père et du Fils. Le Père et le Fils sont tous deux impliqués dans l'œuvre créative qui consiste à élargir cette famille en conduisant à la gloire beaucoup d'enfants, fils et filles. L'Esprit Saint est la puissance de Dieu et l'Esprit de la vie éternelle, non pas une entité ou un être distinct. Voilà l'énoncé de la première croyance fondamentale de l'Église de Dieu, la divinité. Évidemment, dans ce petit paragraphe que je viens de vous lire, il y a beaucoup d'informations très condensées. Je pourrais facilement préparer et vous prononcer plusieurs sermons à propos de ce paragraphe que nous venons de lire. Mais aujourd'hui, je vais prendre juste un sermon pour approfondir les points saillants que nous venons de lire et d'entendre ensemble. Comme j'ai dit au début, il s'agit ici de vérités qui sont très très encourageantes. Tout d'abord, prenons ce qui est mentionné dans la première phrase. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Nous serions tous d'accord avec cela, personne ne le nierait. Mais quand il s'agit de comprendre ce que c'est que l'esprit, là ça peut être difficile à cerner. Parce que nous ne sommes pas composés, nous, d'esprits. Nous ne sommes pas des esprits, nous sommes charnels, des êtres physiques. Nous n'avons jamais vu d'esprit. Nous savons que Dieu est esprit et qu'il y a d'autres esprits qui ont été créés par Dieu. Mais pour comprendre ce que c'est que l'esprit, nous sommes obligés de passer par des analogies. Et l'analogie probablement la plus utile pour nous aider à comprendre ce que c'est que l'esprit, c'est ce que Jésus a employé dans Jean chapitre 3. Alors regardons dans l'évangile de Jean chapitre 3. C'est ici où Jésus discutait avec Nicodème. Il parlait de la nouvelle naissance, de l'esprit. Et il, en faisant cela, il a donné quelques éclaircissements à propos de ce qu'est l'esprit. Du moins, comment l'esprit existe et fonctionne, si je puis parler ainsi. Jean chapitre 3, verset 5, et nous lirons jusqu'au verset 10. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Une description de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc Jésus donne une explication ici, une analogie pour nous aider à comprendre ce que c'est que l'esprit. C'est difficile à expliquer, mais Jésus le comparait au vent. Le vent est invisible, mais il agit. Il exerce une force puissante. Et comme il est invisible, c'est difficile à comprendre. On voit les effets, mais on ne voit pas ce qui crée cet effet. Si je vous demandais même maintenant de décrire l'air, comment est-ce que vous pourriez le décrire? Nous savons tous ce que c'est. Mais décrire, l'air, c'est un gaz, c'est composé de molécules. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un molécule? Une molécule, c'est une agglomération d'atomes. Et des atomes, c'est quoi? Et puis, ce sont des choses que nous comprenons de manière scientifique, si on veut, mais pas forcément de manière très pratique. C'est difficile à cerner l'idée de ce que c'est que l'air. Eh bien, l'esprit aussi dépasse nos moyens de compréhension. Mais nous avons cette analogie. C'est invisible, c'est puissant, c'est capable d'agir, et nous pouvons parfois voir les résultats de son activité. Voilà ce que Jésus a expliqué à propos d'esprit. L'esprit de Dieu est une force qui n'a pas de limite. Dans le chapitre suivant, Jean chapitre 4, Nous avons un autre exemple tiré du ministère de Jésus-Christ qui nous aide aussi à comprendre un aspect de l'esprit. Il ajoute un élément à notre compréhension. Regardons Jean chapitre 4, verset 20. Le contexte ici, c'est le moment quand Jésus s'entretenait avec une femme samaritaine. Les Samaritains n'étaient pas des Israélites, mais ils avaient été aménagés dans le pays de la Samarie par les Assyriens, et donc ils ont adopté certains aspects du culte de l'Éternel, mais à leur façon. Les Juifs ne les estimaient pas du tout, ils les considéraient comme des païens, et donc les Juifs, en général, évitaient de parler avec les Samaritains. Le fait que Jésus a entamé une conversation avec cette Samaritaine est surprenant, du moins ça aurait été surprenant pour les gens de l'époque. Mais ce qui nous intéresse ici maintenant, en ce moment, c'est de voir ce que nous pouvons tirer de ce qui est dit à propos de l'Esprit. Alors Jean chapitre 4, verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Qu'est-ce que Jésus voulait dire en disant cela à cette femme? Jésus lui disait qu'elle imaginait qu'il fallait être dans un endroit, un lieu où on était supposé adorer Dieu. Ou c'était sur cette montagne, ou c'était à Jérusalem, mais en tout cas, il y avait un lieu où il fallait aller pour pouvoir adorer Dieu, rencontrer Dieu. Autrement dit, Dieu était limité dans l'espace. Il pouvait être ici ou là, mais il fallait aller là, l'un ou l'autre, pour pouvoir l'adorer. Dieu aurait été, il pensait, limité par l'espace. Il ne pouvait pas être dans deux endroits en même temps. Et c'est dans ce contexte que Jésus explique que Dieu est esprit. Sous-entendu, il n'est pas limité par l'espace. Il n'est pas limité à être adoré à Jérusalem. Et comme nous le verrons tout à l'heure dans d'autres passages bibliques, Dieu est en fait partout. Et quand on l'adore en esprit, c'est dans cette compréhension-là que Dieu est partout. On n'est pas obligé d'aller dans un lieu, le seul endroit où on peut trouver Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous convoque pas à la sainte convocation, c'est vrai, mais nous comprenons que nous pouvons parler à Dieu et nous devons adorer Dieu partout où nous allons. Il n'est pas limité à être dans un seul endroit à un moment donné. Et c'est pour cela que nous devons adorer Dieu, non pas simplement en prenant un certain aspect extérieur, nous focalisons sur un geste extérieur. Il faut que je me rende à Jérusalem, il faut que j'accomplisse certains gestes, je dois faire des prières dans le bon ordre, et puis il va m'exaucer. Non, nous devons adorer Dieu en esprit, c'est-à-dire au-delà de la lettre de la loi, au-delà de quelques gestes donnés. Nous devons l'adorer même dans nos pensées, même dans l'esprit humain que nous avons, de tout notre être, et nous devons l'adorer partout où nous nous trouvons. Parce que Dieu est effectivement partout. Ça, c'est un aspect du fait qu'il est esprit. Dieu est esprit, nous devons donc l'adorer dans l'esprit. Adorer le Père dans l'esprit de la loi, dans la compréhension de son plan, et nous devons chercher à accomplir son plan, sa volonté pour nous. Nous devons aussi, il est marqué, l'adorer en vérité. Et cela veut dire non seulement selon les formes externes, ou comme j'ai dit, on accomplit un certain nombre de gestes et on reçoit le résultat escompté, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus majestueux, beaucoup plus, ça dépasse le physique beaucoup plus que cela. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. L'esprit n'est pas limité à un seul endroit, n'est pas limité par l'espace, n'est pas limité à être dans un seul endroit à un moment donné. Ça, c'est un autre aspect d'esprit, de l'esprit, qui est important à comprendre à propos de Dieu. Comme Dieu est esprit, il est partout. Il n'est pas limité par l'espace, ni par le temps, d'ailleurs. On verra ça un peu plus tout à l'heure. Et nous devons l'adorer en esprit, c'est-à-dire dans cette compréhension qu'il est partout. Et on dira autre chose là-dessus tout à l'heure. Ça, c'est un premier aspect de cette croyance fondamentale que nous avons lue. Dieu est un esprit. Un deuxième aspect concernant Dieu que la Bible révèle et qui se trouve dans notre croyance fondamentale, le deuxième, c'est que Dieu est éternel. Dieu est éternel. C'est une chose aussi difficile pour nous d'imaginer. L'éternité. Non seulement l'éternité en avant de nous, mais l'éternité du passé également. Nous arrivons à comprendre un petit peu une éternité devant nous, de ne jamais mourir parce que nous ne sommes pas morts encore. Donc on peut imaginer la suite d'une existence qui ne prendrait pas fin. Notre vie n'a pas pris fin encore. Mais nous ne pouvons vraiment pas comprendre l'éternité dans le passé. De pouvoir remonter dans le temps, de remonter éternellement et ne jamais trouver de début. Ça, c'est parce que nous avons tous eu un début. Nous pouvons remonter dans nos souvenirs jusqu'à un certain point, et puis impossible de remonter au-delà de notre date de naissance, et en fait impossible de remonter au-delà de l'âge de 2 ou 3 ans, finalement. Nous avons tous un début. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a toujours existé. Regardons Ésaïe chapitre 57. Ésaïe chapitre 57. À partir du verset 15. Ésaïe, chapitre 57, verset 15. Ésaïe 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » La demeure est éternelle. C'est ce que nous lisons. La demeure de Dieu est éternelle. La version Darby, j'aime bien traduire ce passage, « Dieu habite l'éternité. » C'est là où il habite. Il habite l'éternité. L'éternité est différente de notre existence actuelle. Nous sommes limités par le temps. Dieu, lui, n'est pas limité par le temps. Le temps limite ce que nous pouvons accomplir. Nous ne pouvons accomplir qu'un certain nombre de gestes quelconques dans un temps donné. Il n'en est pas ainsi de l'éternel. Nous connaissons le temps, nous sommes limités par le temps, mais Dieu n'a pas ses limites. Il habite l'éternité. C'est un autre registre de vie, c'est une autre façon de vivre. Aussi loin qu'on puisse remonter dans le passé, Dieu est déjà là. Il a toujours été là. Il est toujours là parce qu'il habite l'éternité. Il a toujours été, il est, et il sera, toujours. C'est pour cela que quand Moïse lui posait la question de connaître le nom de Dieu, quand je vais voir les Égyptiens, ils vont me donner c'est quoi le nom de ton Dieu, qu'est-ce que Dieu a répondu? Il a répondu, « Je suis que je suis. » Qu'est-ce que Dieu aurait pu dire autrement? « Je suis que je suis. » Je suis celui qui est, qui existe, celui qui existe vraiment. Les êtres humains en existence temporaire, il y a une possibilité d'atteindre l'éternité allant de l'avant, mais en fait leur existence n'est pas comme l'existence de Dieu. « Je suis celui qui existe vraiment », Dieu a dit en d'autres termes. « Je suis que je suis ». Et ça démarque Dieu de nous. Nous ne pouvons pas dire « je suis que je suis ». Seul Dieu peut dire cela. Dieu existe dans l'éternité. Il a toujours été, il sera toujours. Nous ne sommes ici que temporairement. Et nous avons un passé limité pour le moment. si nous sommes fidèles à Dieu jusqu'à la fin de notre vie, il nous promet l'immortalité, que nous n'allons plus mourir, nous connaîtrons l'éternité en avant. Mais ce n'est pas certain à 100% encore, parce que l'être humain a le libre arbitre, il pourrait décider d'abandonner Dieu. Et il n'aurait pas, dans ce cas-là, l'éternité. Mais Dieu est. Il sera toujours. Il n'y a rien qui puisse changer cela. Rien. Il y a une formule qui est répétée plusieurs fois dans le livre d'Apocalypse, 7 ou 8 occasions, si je me souviens bien, où Dieu est écrit comme celui qui était, celui qui est et celui qui sera. C'est un titre. On peut décrire Dieu comme ça, celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Cela souligne que ce n'est pas notre cas maintenant. Nous n'habitons pas l'éternité. Même les autres esprits, les anges que Dieu a créés, n'ont pas toujours existé. Ils ne peuvent pas remonter dans l'éternité du passé. Ils peuvent voir ou imaginer une éternité devant, comme nous, mais eux aussi, ils ont eu un moment, le moment de leur création. Dans la plupart des versions françaises de la Bible, comme celle que je lis ici, Monsieur Segond, nouvelle édition de Genève, la plupart des versions, le nom de Dieu est traduit par l'Éternel, Yahvé, l'Éternel. Ce n'est pas toujours le cas dans les versions anglaises. On a tendance à mettre Seigneur, ça c'est l'influence de la version du roi Jacques. Mais la signification de Yahvé, c'est précisément éternel. Il est l'éternel. Et il est le seul à pouvoir prendre ce titre. Aucune autre créature, aucune créature ne peut être celui qui était, qui est et qui sera, l'éternel. Ça n'existe pas pour un autre être. Comme j'ai dit, Dieu ne connaît pas les limitations du temps sous lesquelles nous sommes tout nus. Nous sommes limités à 24 heures par jour. Nous pouvons accomplir jusqu'à un certain nombre de choses pendant ce temps. Mais Dieu, lui, qui est éternel, qui habite l'éternité, est en dehors du temps qui nous limite. Il peut donc accomplir une infinité de choses sans que nous nous en apercevions dans ce qui pour nous serait une seconde, ou moins d'une seconde. Il est en dehors du temps. Et nous butons à nos limites de compréhension quand nous essayons de cerner cela. J'aime bien cette formule d'Ésaïe. Il habite l'éternité. Et il est le seul à l'habiter de cette façon-là. On voit par là la grandeur de Dieu, comment il nous dépasse. Il dépasse même notre compréhension, parce que ce sont des concepts nous pouvons accepter de manière théorique, mais vraiment les comprendre, ça nous dépasse. Nous pouvons apercevoir juste un petit peu, mais pas cerner le tout. Dieu est éternel. Troisième aspect de Dieu qui se trouve dans notre croyance fondamentale, je vais prendre un préfixe venu du grec pour décrire, on va l'attacher à 3 autres mots pour décrire Dieu. J'aurais pu choisir de diviser ces 3 points dans 3 points différents, mais comme tout commence par omni, eh bien je vais regrouper tout ça sous la même rubrique. Dieu est omni. Il est omni quoi? Omni, ça vient du mot, latin, je crois que j'ai dit grec tout à l'heure, mot latin. Omnis, qui veut dire tout, totalité. Dieu est omnipotent, omnipotent. Il est omniprésent et il est omniscient. Omnipotent, ça veut dire tout puissant. Il peut tout. Il est omniprésent, il est partout, à la fois. Comme nous avons déjà vu, il faut l'adorer dans l'esprit parce qu'il est partout. Et il est omniscient, il sait tout. Il a toute connaissance, tout savoir, toute sagesse. Un des titres dans la Bible, employé très fréquemment pour Dieu dans la Bible, c'est le Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Cela se trouve environ 60 fois dans la version Second de la Bible. Dieu met l'accent dans sa parole sur le fait qu'il est omnipotent. Il peut tout. il n'y a pas de limite à ses capacités ni à sa force. Cette connaissance, frères et sœurs, est importante parce que quand nous savons que Dieu peut tout, cela nous encourage dans nos épreuves. Dieu peut tout. Il n'y a rien qui est trop difficile pour Dieu. Il n'y a pas de problème insurmontable pour lui. Il peut tout. Et même si parfois nous devons passer par des moments difficiles, des moments d'épreuve, cela ne veut pas dire que Dieu est dépassé par les événements, ou qu'il laisse passer les choses parce qu'il est incapable d'intervenir. Il est capable de tout. Il peut trouver des solutions. Il peut trouver des portes de sortie pour nous. Il peut trouver des dénouements pour nous dans la vie qui vont parfaitement résoudre la difficulté à laquelle nous devons faire face, même si, encore une fois, cela dépasse notre entendement. Quand nous ne voyons pas d'issue possible à un problème, Dieu est tout-puissant. Quand nous regardons le ciel étoilé la nuit, et encore de nos jours, nous avons un petit aperçu, nous comprenons mieux les distances qui séparent ces lumières, beaucoup plus que les anciens. Quand nous comprenons la majesté de la création, de l'univers, nous voyons que Dieu est tout-puissant. Dieu a créé chaque point de lumière, dont la plupart représentent des soleils, des milliers de fois plus grands que notre Terre, qui déjà nous semble vaste. C'est notre Dieu qui a fait tout cela. Il est tout-puissant. Et là, quand nous comprenons cela, nous voyons que nous sommes infiniment petits dans cet univers. Et selon les connaissances actuelles de la science, cette immensité de l'univers est venue à exister en une fraction de seconde. À un moment, il n'y avait rien, pas de matière, et puis tout d'un coup, toute la matière que nous ne pouvons qu'à peine imaginer, de tous ces soleils, ces systèmes solaires, ces galaxies, et ainsi de suite. Avant, il n'y avait rien. Tout d'un coup, il y a tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons apercevoir. Tout cela s'est produit en une nanoseconde. Dieu est tout-puissant. Il est capable de remplir de vie cette planète, de créer les écosystèmes que nous connaissons, que nous étudions aujourd'hui, qui permettent aux animaux et aux êtres humains de rester en vie, de se reproduire, et cela depuis des milliers d'années. Dieu est tout-puissant. Tous ces systèmes qui fonctionnent si bien pour permettre cette continuité, c'est Dieu qui les a faites. Encore une fois, ça dépasse notre entendement. Mais la Bible nous encourage à chercher à comprendre la divinité, la grandeur, la puissance de Dieu à travers cette création. Quand nous voyons la grandeur de la création, la complexité de la création, nous voyons la grandeur de Dieu, ce dont Dieu est capable. Et la Bible nous dit également que Dieu est omniprésent. Il n'y a pas d'endroit où nous pourrons aller sur terre ou même dans l'espace, dans l'univers entier, où Dieu n'est pas, où il ne pourrait pas nous voir, où il ne serait pas conscient de nous et de ce qui se passe dans nos vies. Regardons Jérémie chapitre 23. Jérémie 23. Verset 23. Jérémie chapitre 23, verset 23. Ne suis-je Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas les cieux et la terre? Là, c'est encore une fois une formule fascinante à propos de Dieu. Dieu remplit les cieux, tous les cieux. Nous savons que la Bible mentionne trois cieux. Il y a le ciel où volent les oiseaux dans l'atmosphère de la terre. Il y a le ciel étoilé de l'univers, d'une taille incroyable que nous n'arrivons à peine à comprendre. On ne comprend pas, en fait, la grandeur de tout cela, ça dépasse nos capacités. Et ensuite, il y a le troisième ciel, là où habite Dieu, dans le domaine de l'esprit. Et ces trois cieux, Dieu les remplit. Il est partout. Notre Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit où nous pouvons nous cacher de lui. Il est fait mention de cela dans ce passage. Si nous pourrions descendre au fond de la mer, Dieu est là, et il serait conscient de nous. Si on pouvait aller dans une fusée d'espace et aller au fin fond de l'univers connu aujourd'hui, Dieu est toujours là. Il serait conscient de nous. Il entendrait nos prières. Dieu est partout. Si nous prions dans ces lieux extrêmes, Dieu nous écoute et il exauce. Quel que soit le lieu où nous habitons, Dieu remplit les cieux et la terre. Il est partout. Et encore une fois, ça veut dire que nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons lui parler de n'importe quel endroit où on pourrait se trouver et savoir qu'il nous écoute. Mais nous devrions aussi en même temps savoir que nous ne pouvons rien lui cacher. Quand nous comprenons que Dieu est partout, ça veut dire que rien n'est caché à ses yeux. Nous devons conduire nos vies dans la connaissance que Dieu voit tout, y compris chaque pensée, chaque émotion, chaque pulsion, chaque motivation que nous pourrions avoir. Il nous connaît même mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Notre Père nous voit, au fond de la mer, au fin fond de l'univers. Regardons 1 Timothée chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1. Verset 17. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. Nous avons au verset 17 ici une, ce qui s'appelle techniquement une doxologie, c'est-à-dire un louange envers Dieu. Et l'apôtre Paul écrit ici dans 1 Timothée 1, verset 17, « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » C'est le Dieu que nous adorons ici, le roi des siècles, qui habite l'éternité. C'est le Dieu que nous adorons. Il est partout. Il sait tout. Il est capable de tout. Et beaucoup de passages dans sa Bible décrivent sa connaissance qui n'a pas de limite. Tout cela est là. Rappelons-nous quand Job s'est plaint de l'injustice de Dieu, que Dieu n'était pas juste envers lui, qu'est-ce que Dieu a fait? Il n'a pas vraiment répondu à cette plainte, il a simplement posé quelques questions. Est-ce que tu peux créer un univers comme moi je l'ai fait? Est-ce que tu sais comment j'ai fait pour faire tout cela? Et Job a dû se rendre compte de sa petitesse. Dieu est omni, il est omnipotent, il est tout-puissant, il est omniprésent, il est partout, et il est omniscient également. Il sait tout. Il sait tout. C'est seulement quand il se décide de limiter sa connaissance pour nous permettre d'avoir le libre arbitre, il ne sait pas à l'avance ce que nous allons faire, du moins ça semble l'explication la plus logique à nos esprits. Est-il possible que Dieu nous laisse absolument libre, mais il sait comment nous allons agir par la suite? Si Dieu décide de faire comme ça, j'imagine qu'il pourrait le faire, mais peut-être qu'il s'est limité juste dans cela pour nous laisser le libre arbitre. Il a décidé de ne pas savoir à l'avance ce que nous allions faire. Mais sans cette petite exception, Dieu est omniscient. Il sait tout. Un quatrième aspect à propos de Dieu, qui est un point très important à garder à l'esprit, surtout quand nous passons dans les moments difficiles de la vie, si nous en venons à douter de cet élément que la Bible explique à propos de Dieu, nous allons être terriblement découragés. Voici ce quatrième aspect. Dieu est bon. Très simple, mais ô combien important. Dieu est bon. Il est parfait. Il n'est jamais méchant. Il n'est jamais égoïste. Il n'est jamais traître. Il ne fait jamais le mal. Dieu est bon. Et c'est très important que nous sachions cela, que nous gardions cela à l'esprit. Regardons ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, verset 17. Marc chapitre 10, verset 17. « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Il n'y a de bon que Dieu seul. Seule la bonté de Dieu est différente de toute autre bonté limitée qui puisse exister. Et en fait, toute bonté qui existe n'existe que parce que Dieu a prêté en quelque sorte de sa bonté. Dieu seul est bon. Complètement, 100% bon. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas bon. Et le fait que nous sommes capables d'une certaine bonté à notre niveau, cette possibilité est là seulement parce que Dieu nous a donné la capacité de faire cela. Dieu est complètement bon. Encore une fois, quand nous parlons de la bonté de Dieu, ça nous dépasse. Ça dépasse toute autre bonté qui puisse exister chez les êtres humains ou chez les anges. Tout cela vient de Dieu. Je crois que c'est simple de voir pourquoi c'est si important de garder cela à l'esprit. Parce que quand nous passons par des moments très difficiles, on doute parfois de la bonté de Dieu. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce que je souffre terriblement là? C'est dans ces moments-là que nous ne devons jamais lâcher prise sur cette vérité. Dieu est bon. Devant les épreuves, devant les problèmes de santé, les diverses épreuves qui arrivent dans la vie, qui font partie de la vie et que nous ne comprenons pas toujours, malgré tout cela, à travers tout cela, nous devons garder en tête que Dieu est bon. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet certaines choses. Pourquoi Dieu ne fait apparemment rien quand nous souffrons terriblement? Pourquoi il nous laisse perplexes, dans l'ignorance, devant cette situation qui est incompréhensible pour nous? Oui, ce sont dans ces moments-là que nous devons revenir à cette vérité, que Dieu est bon, qu'il ne veut que notre bien. Il ne veut que le bien de toute sa création, de toute sa création. Psaume 119, s'il vous plaît. Psaume 119, verset 65. Psaume 119, à partir du verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Dieu n'agit que pour le bien de sa création. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens dans le monde n'acceptent pas cette vérité. Et même parfois, dans l'Église de Dieu, sachant ce que nous savons, nous pouvons le perdre de vue, dans la souffrance, dans l'ignorance d'une situation, l'incompréhension d'une situation. Si nous lâchons cette vérité-là, nous allons nous décourager terriblement et peut-être lâcher prise. Dieu voit plus loin que nous. La Bible nous dit, elle nous avertit à l'avance même, que c'est par des tribulations que nous devons hériter le royaume de Dieu. C'est nécessaire de passer par des moments pénibles pour développer son caractère parfait, qui est le but de cette vie que nous vivons maintenant. Alors nous devons traverser des choses, des situations, pour fortifier notre foi. Et la foi est fortifiée dans les situations difficiles. C'est surtout dans ces situations-là, quand nous ne voyons pas clair, quand les choses ne se déroulent pas comme nous voudrions. Alors nous allons passer par ce genre de moment. Mais ce sont des peines temporaires. Car Dieu voit plus loin que nous, beaucoup plus loin. Il voit pourquoi il nous prépare maintenant. Et Dieu est bon. Dieu est bon. Le mal que nous pouvons avoir dans cette vie n'enlève en rien la bonté de Dieu. Bien au contraire, c'est une manifestation de sa bonté, parce que Dieu sait que c'est nécessaire pour nous faire le bien qu'il veut nous faire, pour nous donner ce qui est bon, ce qui sera bon dans l'avenir. Regardons Jérémie chapitre 9. Jérémie chapitre 9. Verset 23. Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. De savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cause de cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Que je prends plaisir. Dieu prend plaisir à être bon. Et en fait, il s'agit ici dans ce passage de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous voulons renouveler notre intelligence à propos de l'Éternel, renouveler notre compréhension, avoir sa fraîcheur à l'esprit, le Dieu que nous adorons. Nous sommes en train de renouveler notre connaissance à propos de l'Éternel. Nous nous efforçons, vous et moi, d'exercer la bonté, le droit, la justice. Parfois, nous devons le faire un peu à contre-cœur. J'ai vraiment pas envie humainement d'être bon envers cette personne qui m'a insulté ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu me le dit, alors je vais m'efforcer de le faire. C'est parfois à contre-cœur que nous pratiquons certaines de ces vertus. Nous, si on se laissait aller, on ferait autre chose. On s'efforce de le faire. Mais Dieu, lui, n'a jamais ce genre de situation. Dieu ne dit jamais, oh, j'aimerais vraiment, mais je vais pas le faire. Non. Lui prend plaisir à être bon. Toujours. Il prend plaisir. C'est un plaisir pour Dieu d'exercer la bonté, le droit et la justice. Et il ne le fait pas toujours de la manière que nous choisirions, nous. Mais de toute manière, à tout moment, Dieu prend plaisir à être bon. Et il est toujours bon. Ça, c'est un élément que nous ne devons jamais douter. C'est catastrophique si nous perdons cela de vue. Un cinquième aspect de Dieu, maintenant. Il s'agit d'un élément qui n'est pas toujours bien compris, et même assez souvent mal compris dans le christianisme traditionnel. Mais cette vérité, la voici. Dieu œuvre. Dieu agit, il travaille. Dieu agit. Il est en train d'accomplir un plan. Dieu travaille, il œuvre, et il sait ce qu'il fait. Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, verset 10. Jean chapitre 5, verset 10. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Vois, tu étais guéri, ne pêche plus de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses au jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, de leurs yeux, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. La Nouvelle Bible Second traduit peut-être un peu mieux ce passage. Jésus lui répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. Dieu a une œuvre à accomplir. Il accomplissait Jésus pendant son ministère physique ici. Il accomplissait l'œuvre de son Père. L'œuvre que le Père avait déterminée avant que Jésus ne vienne sur terre. Il y avait une œuvre en cours. Il y a une œuvre encore. L'œuvre de Dieu qui est en cours. Il est en train d'accomplir un plan bien précis. Et Jésus-Christ est venu pour accomplir sa part dans ce plan. Son grand plan ne s'arrête pas le jour du sabbat. C'est ce que Jésus disait là. En fait, probablement il y a plus d'avancées dans l'œuvre de Dieu, du moins certains aspects de son plan, lors du jour du sabbat, l'enseignement de ses enfants. La version Darby traduit cette phrase, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et moi je travaille. » L'œuvre de Dieu continue. Et il avait prévu cette œuvre même avant d'avoir créé Adam et Ève, avant d'avoir créé l'univers physique, avant d'avoir commencé la création dont nous lisons dans le début de la Bible. Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15, jusqu'au verset 18. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est question ici de la suprématie de Christ, mais nous voyons aussi un autre aspect qui se trouve dans l'énoncé de croyance que nous étudions aujourd'hui. Dieu est à l'origine de tout. Il soutient la création qu'il a faite dans le but d'accomplir son dessein. C'est pour cela qu'il agit. En lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles, le monde des esprits, des anges, etc., trône, dignité, domination, tout a été créé par lui dans le but d'accomplir son œuvre, dans le but d'accomplir son plan. Il avait prévu le déroulement de son plan depuis le début, et l'accomplissement de son plan l'a motivé à créer tout ce qui existe aujourd'hui. Jean chapitre 1, le début, même avant le début de la Genèse, nous avons ce début au commencement de l'évangile de Jean. Au commencement. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Nous avons ici deux personnes qui font partie de Dieu, qui sont Dieu. Il y a Dieu le Père, puis la parole qui est devenue Dieu le Fils. Elle était au commencement avec Dieu le Père. Il y a donc deux êtres qui composent la divinité, le Père et le Fils. Et il y avait un plan qui a commencé et qui a fait que toute cette création a eu lieu. Donc, notre Dieu travaille, il œuvre, il agit. Il a un plan, et son plan suit son cours. Très souvent dans le christianisme traditionnel, que ce soit protestant ou catholique, on a l'idée que Dieu avait prévu que les choses soient bonnes, parfaites au début, et que Satan est venu et il a tout esquinté. Il a endommagé, il a fourvoyé le plan de Dieu et détruit cette beauté que Dieu avait faite. Et il fallait que Dieu cherche un plan B. Ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme si Dieu était pris au dépourvu. Ah, je sais, je vais envoyer mon fils et il va rafistoler quelque chose. Non, Dieu a un plan depuis le début. Son plan, c'est parfait. Et tout se déroule exactement comme Dieu l'avait prévu depuis le début. Et ce qu'il veut faire, son but, c'est de créer des enfants qui seront dans la famille de Dieu. Et ceci nous amène à notre sixième aspect de Dieu, que Dieu révèle à propos de lui dans sa parole. Dieu se révèle en termes de famille. Dieu se révèle en termes de famille. Dieu est en fait une famille, composée pour le moment de deux personnes, père et fils. Mais nous voyons beaucoup de passages dans la Bible qui parlent d'enfants de Dieu qui feront partie de cette famille que Dieu est en train de créer. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Éphésiens chapitre 3, verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Toute famille tire son nom. Dieu se révèle en termes de famille. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Comment est-ce que toute famille tire son nom de lui? Famille, c'est patria. C'est le nom pour la famille dans le grec, et ça vient du mot père. Patria. Patria, ça vient du mot pour père. Donc, à chaque fois qu'on utilisait dans le grec le mot famille, eh ben, on faisait référence à un mot qui remontait au père, finalement. Et c'est marqué ici aussi, toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de lui. Il y a une famille aux cieux, la famille divine, la famille de Dieu, composée, comme j'ai dit pour le moment, de père et de fils, mais qui va s'agrandir avec le temps. Dieu se révèle, en termes de famille. Il se révèle dans la Bible en termes de famille. Nous sommes, considérons un instant, certains de ces termes qui sont utilisés. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes frères et sœurs. Il y aura l'épouse de l'agneau. Nous sommes comparés à des enfants, appelés des enfants de Dieu. Jésus-Christ est appelé le premier-né de beaucoup de frères, d'entre beaucoup de frères. Tout cela, ce sont des termes familiaux qui indiquent que Dieu est en train de former une famille. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père et vous serez des fils et des filles. En fait, le verset 17, c'est une citation de l'Ancien Testament. Mais nous retrouvons encore une fois plusieurs termes familiaux qui se trouvent ici. Dieu est notre Père. Il veut que nous entrions dans sa famille. Il veut que nous soyons ses fils et ses filles, comme nous le voyons répété plusieurs fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament et puis répété dans le Nouveau Testament également. C'est le plan de Dieu. Depuis le début. Hébreux chapitre 2, maintenant, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, voilà le plan de Dieu, le but de Dieu. Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il convenait qu'il était élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est le dessein de Dieu. C'est notre destinée. C'est pour cela que Dieu nous a créé la race humaine depuis le début. Il veut conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus nous a montré le chemin. Nous devons suivre son exemple afin d'arriver à ce but que Dieu s'est fixé. Regardons aussi Romains chapitre 8. Romains 8, verset 28. Romains chapitre 8, 28, vous le connaissez par cœur probablement, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous allons être comme lui. Il est Fils, nous allons devenir enfants, frères et sœurs, à part entière de notre Seigneur et Sauveur. Afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Le premier-né de beaucoup de frères. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a créés. La Bible, Nouvelle Bible Seconde, le traduit le premier-né d'une multitude de frères. Une multitude de frères. Dieu veut, Dieu le Père veut que nous ressemblions à l'image de son Fils, pour que nous puissions lui ressembler, afin de devenir, de faire partie de ce groupe de fils que Dieu est en train de préparer, qui conduit à la gloire. Il y aura toujours une différence entre Jésus-Christ et les autres frères et sœurs. Il est éternel, nous ne serons jamais de la même façon éternels. Nous n'aurons pas l'éternité du passé comme lui là. Nous ne serons pas ses égaux, mais nous serons comme lui. La Bible le dit. Il sera le premier-né de beaucoup de frères. Il y aura beaucoup de fils dans l'avenir que Dieu a conduit, aura conduit à la gloire. Le septième et dernier point que nous allons regarder à propos de Dieu, et nous allons simplement le toucher assez rapidement, puisque on aura le temps d'en parler plus longuement dans un autre sermon, mais nous devons toucher à la question du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit est révélé comme étant la puissance de Dieu, mais non pas un troisième personnage dans une trinité, dans la divinité. Le Saint-Esprit n'est pas une personne comme le Père ou le Fils. Et quand nous comprenons cette vérité, c'est tout à fait logique. Nous avons Père, Fils, il y aura d'autres enfants, mais un troisième personnage qui serait neutre, ça c'est pas familial. C'est pas familial. Le Saint-Esprit n'est pas une personne dans le même sens du Père ou du Fils. Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit agit, c'est Dieu qui agit à travers cette force, sa force à lui. C'est sa puissance qui est manifestée. Regardons Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. Comme j'ai dit, on regardera ceci plus longuement dans un autre sermon à l'avenir, mais puisque c'est mentionné en passant dans l'énoncé de croyance, nous devrions au moins toucher un mot là-dessus. Actes chapitre 1, verset 8. Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Quand le Saint-Esprit survient sur quelqu'un, cette personne reçoit de la puissance. Pas une personne. Vous recevez une puissance en vous. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Regarde aussi 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1. Verset 6 de Timothée, chapitre 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, question du Saint-Esprit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est ce que nous voulons. Recevoir le don du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est la manifestation de sa puissance, mais non pas une troisième personne dans la Trinité. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. C'est une doctrine qui a été développée des centaines d'années après que Jésus ait fondé l'Église, après que l'Église primitive ait disparu. Et c'est une idée qui sort du paganisme grec avant. Cet enseignement n'est tout simplement pas dans la Bible. Dieu est une famille unie par amour, et nous allons un jour, si nous restons fidèles, nous allons entrer à part entière dans cette famille. Nous allons pouvoir un jour appartenir pleinement à la famille divine. Eh bien, frères et sœurs, nous avons regardé plusieurs aspects de Dieu aujourd'hui révélés dans la Bible. Et les réponses que nous avons trouvées, en fait, répondent à certaines des questions que nous avons vues tout au début du sermon. Est-ce que Dieu existe? Il dit oui, il nous montre des preuves. Il est comment? Il est aimant, il est éternel, il est toutes ces choses que nous avons vues. Il ressemble à quoi? Il est composé d'esprit, c'est pour ça que nous ne pouvons pas le voir. Il existe en dehors du temps. Et non, il n'a pas de maman. Mais il a créé l'idée de la maman. Et ça, c'est un merveilleux don pour nous tous. Ces passages bibliques nous disent que Dieu est grand, qu'il nous dépasse. Quel privilège de pouvoir reconnaître ce Créateur divin, de savoir qu'il s'intéresse à nous et qu'il nous a créés avec un but spécifique en tête. Un avenir merveilleux. De savoir qu'il nous veut dans sa famille, qu'il s'occupe de nous jour après jour, et que, selon son plan, il nous conduit vers le jour quand nous pourrons appartenir à part entière à sa famille, à ses enfants, en étant conformes à l'image de son Fils, son premier-né. Quand nous comprenons bien ces vérités bibliques à propos de notre Créateur, nous pouvons et nous devons dans nos prières dire à Dieu « Merci que tu es » et « Merci que tu es comme tu es ».